Donc ma démarche, la démarche qui me fait arriver à ça, donc c'est une démarche double qui correspond grossièrement en fait aux deux parties de ma thèse. Un premier temps qui est plus une enquête, on va dire, d'histoire intellectuelle et culturelle, et une deuxième qui est davantage une enquête d'histoire sociale. Première démarche, cette thèse, en fait, j'ai essayé de traquer l'arrivée du terme « islah » dans le discours des acteurs, des années 1880 aux années 30. Voilà. Quand est-ce que le mot émerge dans le langage des lettrés religieux, des oulémas? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut dire quand? Parce que, bon, l'apparition d'un mot, c'est une chose, mais quel sens lui prête-t-on en 1900, en 1920? Et quand est-ce qu'en fait, à quel moment est-ce qu'il cristallise un peu dans le sens que les orientalistes ont traduit par réforme? Donc, je montre que ce discours est tenu le mot apparaît dans le langage ibadite à la fin du XIXe siècle, mais n'a pas du tout cette valeur de réforme. C'est un terme en fait de l'adab, en fait de la culture pieuse, soufie. En tout cas, c'est un terme qui vient de la culture pieuse et qui n'est pas spécialement lié à l'idée de réforme. Il est lié plus à l'idée soit de soul, c'est-à-dire de conciliation, d'intervention pour concilier les gens en désaccord, soit à des idées plus, la piété, à l'idée d'un effort sur soi-même, d'un effort de correction. Et il émerge comme un discours davantage lié à un diagnostic social, à la recherche de solutions dans les années 20. Et c'est surtout dans les années 30 qu'il devient très fréquemment brandi pour évoquer des questions de réforme, que ce soit des réformes des pratiques religieuses, des pratiques sociales ou des réformes politiques. Pendant toute cette période, il garde ce sens que j'ai trouvé à la fin du 19e, donc un sens plus piétiste. Et il a aussi, dans les années 20 et dans les années 30, il conservait une polysémie au sens où, au pluriel, islahat, il sert à désigner des réformes strictement politiques, donc les réformes d'Atatürk, le projet Violette, et au singulier, il va davantage concerner des questions de réforme des savoirs musulmans et de la façon dont l'islam est vécu au quotidien par les populations tunisiennes et d'Algérie. Mais ce que vraiment, ce que je mets en évidence, notamment en étudiant assez finement la presse produite par les oulémas tunisiens, c'est que il y a une inflation du terme et une cristallisation de son sens, comme dans un sens réformiste tel que les orientalistes l'ont saisi, autour de 1936, au moment précis où le terme sert aux oulémas à entrer en interaction avec d'autres acteurs publics, d'autres acteurs de l'espace public algérien, qu'ils soient francophones ou arabophones. On a du coup là un objet qui n'est pas une catégorie endogène, c'est pas un truc qui serait depuis toujours dans l'islam et qui se transmettrait, on a vraiment une catégorie, un mot de la langue arabe, mais qui est utilisé là comme un objet hybride et qui est un fruit à la fois de la confrontation coloniale, d'une culture islamique et se construit dans cette interaction. C'est un discours qui fonctionne avec toute une série de binômes, des binômes de décadence, réveil, corruption, réforme, arriération, progrès, ignorance, savoir. Donc on a toute une série de binômes qui structurent ce discours et ça permet aux oulémas, mais aussi à d'autres acteurs, d'analyser, de donner un sens à l'histoire qu'ils vivent, à ce qui leur arrive. Et ça leur sert à différentes choses suivant la sphère dans laquelle ils s'expriment. Donc entre oulémas, ça leur sert à penser, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça leur sert à la fois à penser les changements qui adviennent dans la façon de vivre l'islam, et en même temps la continuité, puisque la figure du réformiste, ils la construisent comme une figure généalogique qui remonterait au prophète Mohammed et qui donc légitime leur action. De cette façon, elle leur sert à prendre la tête un peu de la communauté, à s'affirmer comme les héritiers du prophète et donc à discréditer leurs opposants. Dans l'espace algérien, alors là c'est James McGougall l'a bien montré, elle leur sert à capter une légitimité culturelle, religieuse pour représenter et construire une nation algérienne, comprise comme musulmane et arabe. Et enfin, dans le contexte colonial, je l'ai aussi suggéré déjà, cette catégorie dont ils exploitent la polysémie et la traduction par réforme leur sert à intervenir dans l'espace public. On le voit très bien, enfin je le montre au moment du congrès musulman de 1936 aussi. Voilà donc un peu pour ce volet d'histoire intellectuelle et culturelle du terme réforme et de ses usages. Volet qui va aussi, je suis obligé d'aller un peu vite, mais j'ai essayé de montrer aussi pour déconstruire les généalogies de réformistes. Je me suis non seulement appuyé sur les usages du terme islam et son sens, mais aussi en fait sur les pratiques culturelles, lettrées et leur évolution. C'est-à-dire que les oulémas qui s'affirment réformistes dans les années 30 vont dire « mais mon chir, mon maître, était un réformiste, et son maître au début du 19e était un réformiste, et son maître au 18e était un réformiste, chacun est venu réformer les façons de faire de la société. Et j'ai essayé de montrer comment il y avait malgré tout une rupture culturelle très forte qui était propre à cette génération de l'entre-deux-guerres, et comment au contraire le grand maître qui est le Cheikh Atfayesh, dont ils se réclament tous les élèves, qui est un shir de la fin du 19e siècle, comment les pratiques culturelles de ce shir étaient davantage ancrées dans un monde cognitif, culturel, issu de la période moderne. Ça m'amène en fait au deuxième volet de ma recherche, qui est aussi la deuxième partie, c'est que j'ai essayé de faire une histoire, alors bon, j'avais mis une histoire totale, ce qui m'a été un peu reproché, mais en tout cas une histoire à la fois sociale, culturelle, politique, de ce réformisme à une échelle locale. C'est-à-dire que j'ai essayé vraiment, puisque j'ai affaire à une région assez restreinte et à une population restreinte, j'ai essayé d'étudier de façon assez intensive, l'action de ces oulémas, donc montrer non seulement comment ces oulémas réformistes s'emparent d'un slogan transnational qui est présent à l'époque dans l'ensemble du monde musulman, mais comment ils s'en servent pour prendre localement l'ascendant et pour perpétuer, en la refaçonnant, une communauté de croyants qui est aussi une communauté politique, et comment ils en prennent la tête. Donc j'ai essayé d'explorer les significations sociales, culturelles de l'adoption du slogan réformiste. Alors, j'ai déjà empiété, mais de voir surtout à quelles pratiques culturelles il se réfère. Alors, les métiers embrassés par ces oulémas, qui en fait sortent des cadres traditionnellement affectés aux religieux, aux lettrés dans la société maghrébine, puisqu'ils deviennent imprimeurs, journalistes, conférenciers. J'ai essayé de mettre à jour les réseaux de diffusion de leurs pensées, notamment via la presse. J'ai essayé de mesurer la nouveauté de leur inscription sociale et culturelle dans la société algérienne, qui se fait aussi via un réseau associatif, et qui montre en fait des évolutions très profondes du sens en fait même de ce que veut dire être ouléma. J'ai aussi essayé de traquer un peu les soubassements économiques de ces changements, c'est-à-dire que on ne peut pas comprendre le succès des réformistes, c'est mon idée, on ne peut pas comprendre le succès de ces oulémas réformistes, la façon dont ils ont réussi à prendre l'ascendant dans le champ religieux ibadite, si on ignore leur alliance avec tout un groupe de commerçants, originaires du Mzab, de commerçants ibadites, qui en fait s'enrichissent, s'intègrent parfaitement et s'enrichissent dans le capitalisme colonial, dans des processus de mondialisation en fait. Donc j'ai essayé de mettre en évidence la façon dont il y a vraiment une alliance objective entre ces oulémas à une nouvelle sauce réformiste et des commerçants qui donc vont échanger un capital économique contre un capital symbolique et la garantie de l'accès aux biens de salut. Donc il y a vraiment une alliance très intéressante. Les oulémas réformistes viennent en fait répondre à une demande spirituelle, sociale, nouvelle de la part de ces commerçants qui, en échange, leur donnent de l'argent, la capacité de se déplacer via des réseaux, notamment des réseaux de transport, et qui financent en fait la fondation d'écoles, d'associations, dans toutes les communautés ibadites du Maghreb, c'est-à-dire d'Algérie et de Tunisie. À ce premier axe de réflexion sur les modalités sociales d'appropriation du slogan réformiste s'articule un questionnement sur les effets sociaux et politiques, notamment sur l'évolution de la communauté mozabite en contexte colonial. Mon idée, ça a été de décrypter le rôle du fait et des acteurs réformistes dans la redéfinition des contours et des institutions de la communauté mozabite pendant la période coloniale. Donc j'ai essayé de montrer, alors d'une part, les modalités de l'insertion du Mzab dans la communauté politique, dans l'ensemble politique algérien, mais aussi j'ai essayé de voir à l'échelle locale la transformation de ce que veut dire être ibadite, être mozabite, c'est le terme. Ibadite renvoie vraiment à l'appartenance à un groupe, à une appartenance confessionnelle religieuse, alors que mozabite, c'est plus le terme, l'ethnotype construit donc par les administrateurs coloniaux pour désigner les habitants berbérophones ibadites du Mzab. J'ai essayé de scruter la bipolarisation que l'on observe à l'échelle locale. La communauté du Mzab se divise en deux de façon très forte dans les années 30 face au discours de la réforme. C'est-à-dire que le discours de la réforme est un objet de scandale, de division, qui suscite des querelles extrêmement violentes. Donc ça, c'est très intéressant de voir les dissensions entre populations algériennes. Et ça m'a permis de voir les moyens d'action, les marges d'action à la disposition des réformistes, à la disposition de leurs opposants qui sont stigmatisés comme conservateurs. Et j'ai essayé de montrer comment ces disputes et l'action des réformistes faisaient évoluer le magistère des oulémas. Et aussi, j'ai essayé de mesurer l'impact réel que l'action des réformistes a ou non sur l'évolution des interdits, des pratiques rituelles. Interdits et pratiques qui structurent, en fait, qui enserrent la communauté, qui en définissent les frontières et qui ainsi définissent l'être mozabite, on va dire. C'est dans ce cadre que j'étais amené à évoquer les différents points. Dans le résumé, j'ai parlé école, la question des innovations techniques, la question des pratiques culturelles, religieuses et la question des femmes. Ça, voilà, ce sont les points d'achoppement sur lesquels la dispute se structure entre les années 20 et les années 50. Et ça permet de voir vraiment comment, dans un contexte où non seulement les ibadites sont ultra minoritaires en Algérie, mais où en plus le pouvoir est français, la communauté ibadite redéfinit ses frontières autour, et les structures autour de ces réformistes. Alors, quelles sources pour cela ? J'ai aussi structuré en deux temps la question des sources. Donc d'une part, quelles sources pour les discours des acteurs, et ensuite, quelles sources pour étudier plus dans une perspective d'histoire sociale, culturelle, l'ensemble, d'une façon plus large, ce qui se passe à l'échelle locale. Alors, pour mon premier axe, cette façon de scruter les discours, les actions des acteurs, j'ai d'abord eu la chance de trouver, notamment devant mes terrains au Mzab, j'ai passé plus d'un an et demi en mettant tous les terrains bout à bout, j'ai dû passer peut-être 14 mois sur place. J'ai trouvé donc de nombreux écrits publiés par les réformistes dans l'entre-deux-guerres. C'est le grand atout des réformistes dans cette histoire, c'est que ce sont eux qui s'approprient l'imprimerie. C'est eux qui deviennent des imprimeurs et qui savent faire leur cet outil moderne, ce qui leur donne une grande force de frappe, et ce qui permet à l'historien d'avoir des sources plus facilement lisibles que les sources manuscrites, et aussi plus facilement trouvable. Donc, les réformistes du Mzab publient des périodiques à Alger et au Caire, et à Tunis aussi un petit peu. J'en ai exploité trois de façon vraiment très intensive. Ce sont les trois qui ont la durée de publication la plus longue. Donc, un premier qui s'appelle El Minhaj, qui est publié au Caire de 1924 à 1927. Le deuxième, qui est ici, est à gauche, c'est le Wadi Mezab, qui est publié à Tunis puis Alger de 1926 à 1929. Et enfin, El Umma, qui est à droite, ici, et qui est publié de 1933 à 1938. Les réformistes, par ailleurs, contribuent de façon périodique à d'autres périodiques. Plutôt des journaux tenus par des oulémas ou des lettrés sunnites au Caire, Tunis et Alger. Et j'ai aussi essayé d'utiliser ces journaux-là. Les réformistes ont aussi publié quelques ouvrages ou des présentations d'ouvrages, surtout au Caire. À cette époque, je les ai exploités dans la mesure où j'ai pu les trouver. C'est un petit peu plus ponctuel comme usage, mais je m'en suis servi. Ce qu'il y avait d'intéressant notamment, c'est que c'est dans les années 30 que les réformistes commencent à publier ce qu'ils définissent comme un patrimoine intellectuel ibadite. Et donc, ils vont sortir d'une culture scolastique dans laquelle les textes étaient toujours transmis par le biais de commentaires. Et ils vont extraire ce qu'on appelle le ventre du texte. J'arrive plus à trouver le terme. Mais en gros, ils extraient le texte original autour duquel est construit le commentaire et ils le publient. Donc c'est une façon de définir un patrimoine intellectuel. Ça, c'était intéressant aussi. Deuxième ensemble de sources, c'est la mémoire, ce que j'appelle la mémoire du mouvement réformiste. Le mouvement réformiste, c'est la catégorie utilisée dans l'historiographie algérienne et mozabite. Alors cette mémoire se construit à partir des années 60, quand les oulémas réformistes et leurs descendants ou disciples ont le souci d'écrire leur histoire. Et l'histoire de la région, les deux sont assez indissociables. Le principal contributeur à cette mémoire, qui est vraiment le mémorialiste des réformistes du Mzab, s'appelle le Shir Debbouze, qui a un lettré qui a, honnêtement, il n'a pas un niveau extraordinaire, mais il a participé à cette œuvre de réforme. Il a été très proche des réformistes et il écrit des volumes et des volumes où il raconte, de façon souvent assez anecdotique, l'histoire de ce mouvement réformiste. Bon, c'est du pain béni, en plus c'est un arabe assez facile, donc ça, c'est très bien. Donc il écrit « La renaissance moderne de l'Algérie et sa révolution bénie » et un autre ouvrage « Les étendards de la réforme en Algérie ». Depuis, d'autres chirs réformistes ont écrit notamment des récits autobiographiques. Tout cet ensemble, c'est Papa Debbouze. Debbouze est publié dès les années 60-70, mais les autres, en fait, c'est un patrimoine qui a commencé à être défini comme tel et publié depuis la fin des années 80. Donc les dépositaires de cette mémoire ont publié beaucoup de récits autobiographiques, de correspondances, de sélections d'avis jurisprudentiels, de fatwas, des commentaires coraniques qui avaient été donnés de façon orale, enregistré et retranscrit, des prônes, enfin voilà. Alors c'est des éditions qui ne sont pas du tout scientifiques, mais certains de ces textes peuvent être rendus utiles pour une étude, puisque parfois les conditions de production sont malgré tout assez claires. Pour ce souci que j'ai eu de remonter aux années 1880, c'est-à-dire de la question du temps long, des évolutions dans le temps long et aussi des permanences qui structurent quand même cette période, donc tout ce qui subsiste, tout ce qui demeure malgré le réformisme, j'ai eu la chance de trouver du matériel dans des bibliothèques de la vallée du Mzab. Donc là, plutôt du matériel, des sources manuscrites. Alors, c'est un petit peu plus... maigre comme récolte, parce que mon niveau d'arabe ne me permettait pas de lire des kilomètres de manuscrits. Mais donc j'ai d'une part récupéré une série de, de sources qui en fait s'apparenteraient à des sources folkloristes, un peu enfin, du folklorisme européen, c'est-à-dire là c'est une source qui décrit donc تفكير لبعض ما يذكر يوم الزيارة في مشاهد ومقامات الغردية. Donc voilà, un rappel, c'est une description en fait de tous les gestes et les histoires qui sont racontées lors des visites pieuses qui sont rendues aux tombes, en fait dans les cimetières, donc les visites qui sont rendues aux morts de la vallée du Mzab et les mausolées des saints personnages locaux. Donc ça c'était une source tout à fait intéressante. Et aussi, j'ai eu la chance de tomber sur un assez gros manuscrit, donc le Hujaj d'Amir Ali Bedar al-Zahira, l'épreuve éclatante des innovations blâmables de la faction déviante. Alors c'est assez violent hein, comme façon de parler. En fait, c'est le chef des ulema conservateurs qui s'oppose aux réformistes. Et alors c'est vraiment un ouvrage qui fait une... fait une centaine de pages et qui s'attaque au Cheikh Bayoud et à tous ses prétendus réformistes et qui démonte point par point toutes leurs prétendues réformes. Alors évidemment, il y a beaucoup de noms d'oiseaux très, très savoureux. Il y a aussi beaucoup de développement de droits musulmans, pas savoureux du tout, mais très instructif quand on finit par comprendre comment ça marche. Voilà, ça c'était extrêmement intéressant et puis surtout ça montrait et d'autres textes le montrent, la permanence, la vivacité d'une culture du livre manuscrit, malgré l'adoption de l'imprimerie. Donc là, on a un texte qui date de 36-37, on a ce Shir qui écrit une centaine de pages manuscrites, et ce livre n'a jamais été imprimé, mais il a continué à circuler, et dans les années 70, il a été photocopié et diffusé sous forme de photocopie. Donc vous voyez, il y a une culture du livre manuscrit qui dure assez longtemps dans le XXe siècle. Donc là, ça m'a permis notamment de complexifier beaucoup l'image que Murad donne des conservateurs, et conservateurs qui sont en fait souvent très peu traités, c'est-à-dire que les travaux centrés sur le réformisme ne s'intéressent qu'aux réformistes, avec ce biais de la source très fort qui est le pullulement des écrits imprimés, et qui rend très difficile l'accès à la parole des opposants. Et là, ça m'a permis quand même de bien voir quels étaient leurs arguments. Alors, mon directeur de thèse m'a reproché d'utiliser trop ce texte, mais comme j'en avais pas tellement d'autres, qu'il était quand même long, intéressant, central dans cette histoire, et puis rare, puisqu'on a rarement accès à leurs paroles, je ne me suis pas privé. Et deuxième volet, alors quelles sources... Ah voilà, un autre exemple de ces textes manuscrits que j'ai pu trouver. Ça c'est une convention en fait, passée par les assemblées de notables et d'oulémas des différentes villes de Mzab. Alors ça permet de voir la permanence d'une culture politique locale qui date aussi de la période moderne, pendant la période coloniale. Donc ici c'est un décret pris en mars 1928 pour interdire aux hommes d'emmener leurs femmes dans le nord de l'Algérie. Parce qu'avec l'arrivée de la voiture, il y a des hommes qui partaient travailler dans le Nord en emmenant leurs femmes, et ça donne lieu à des querelles pas possibles, et donc, sous peine d'une excommunication, vraiment de l'exclusion de la communauté des croyants ibadites, on n'a plus le droit, les hommes se voient interdits de déménager avec leurs femmes. Dernier corpus aussi pour ces questions autour des permanences, de ce qui dure, c'est j'ai eu la chance de trouver dans la bibliothèque des Pères Blancs, donc il y a des missionnaires catholiques qui se sont installés au Mzab dans les années 1890, j'ai un doute, je pense qu'ils arrivent à la fin des années 1880, et ils ont pris des photos sur verre. Les plus anciennes datent vraiment autour de 1900, il y en a beaucoup plutôt des années 20, et qui permettent de voir tout un... Alors, il n'y a pas toujours beaucoup d'acteurs, d'êtres humains sur ces photos, mais sur un certain nombre de photos, il y a des êtres humains comme là. Ça permet de voir des pratiques sociales qui ont en partie disparu, ou qui en tout cas ont été profondément transformées depuis. Et ici, alors c'est peut-être pas très net, mais on voit des femmes en fait, qui se rendent au cimetière, pour aller prier, poser un certain nombre de gestes sur les tombes des morts. J'en suis en fait progressivement arrivé aux sources qui me permettent de, de multiplier les approches sociales et culturelles, économiques autour de la question du réformisme. Pardon, j'ai glissé l'un à l'autre, mais donc là, voilà, on a un exemple. Et j'ai essayé de faire feu de tout bois, c'est-à-dire que les discours des oulémas sont souvent assez peu contextualisés. On a une parole religieuse, une parole morale, des discours juridiques, mais qui sont peu contextualisés. Alors j'ai essayé d'une part de contextualiser, avec ce qu'il y avait quand même, de les lire à rebrousse-poil pour trouver des éléments de contexte. Notamment dans la presse, c'est un peu plus facile parce que d'une part l'actualité est présente et d'autre part parce que la presse contient énormément d'éléments sur, le journal lui-même est un support qui dit beaucoup de ces modes de diffusion, de création. Et sinon, j'ai évidemment recouru aux sources de l'administration, en fait, de la période coloniale, qui sont dispersées entre Gardaïa, Alger et Aix-en-Provence. Alors j'ai surtout travaillé avec les sources qui sont conservées à Aix-en-Provence et à Gardaïa. Et puis un deuxième volet, pour contextualiser, j'ai utilisé aussi beaucoup tout ce qui a trait à l'orientalisme savant, puisque dès les années 1860-70, le MZAB est un terrain d'investigation des savants orientalistes, mais aussi des administrateurs qui vont produire des monographies, des articles, qui sont pour beaucoup extrêmement utiles. Voyage donc des textes, littérature d'exploration, études de dialectologie, d'ethnographie, voilà, tout ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale. Et enfin, j'ai utilisé donc tout un ensemble soit d'archives, soit de documentation, produit par les missionnaires, les Pères Blancs et les Sœurs Blanches qui se sont installés dans la région donc, en 1884, voilà, j'ai noté la date. Sources qui sont conservées pour les archives à Rome, donc on a notamment au QG des Pères Blancs, on a notamment les dières, c'est-à-dire des cahiers sous lesquels, soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire, les religieux notaient ce qui se passait dans la communauté et dans la région. Alors c'est très centré sur la communauté au début, et à partir des années 20, on sent qu'il y a une ouverture un peu plus large à ce qui se passe dans la région, en tout cas dans ce qui est écrit. Des fonds documentaires, publiés ou non, et qui eux étaient conservés surtout à Gardaïa, dans la bibliothèque de la communauté des Pères Blancs. Et c'est là que j'ai trouvé donc des milliers de clichés sur verre, de photographies du Sahara, du nord du Sahara en fait, pendant la période coloniale. Alors il n'y en avait pas des milliers sur le MZAB, mais il y avait quand même une bonne centaine de photographies fort intéressantes. Et aussi quelques archives de pères qui ont écrit des choses et ne les ont pas forcément publiées, ou bien les ont publiées. Avant de conclure, parce que j'ai été un peu long, hein, j'ai l'impression que tout n'est pas sorti. J'aurais dû vérifier que tout était bien sorti.
Ah oui, peut-être qu'il y a un panneau de papier.
Oui, c'est pas grave. D'une part, une petite nuance, c'est-à-dire que j'ai un corpus, au bout du compte, qui est à peu près à 50% arabophone, 50% francophone. Mais malgré mon souci de faire entendre des voix algériennes, je n'ai pas essayé de faire, pour reprendre le slogan de Romain Bertrand, une histoire symétrique, une histoire à parts égales. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il montre pour le contexte indonésien, les différences linguistiques ne sont pas du tout l'indice de discours étanches. On n'a pas de mondes différents. L'historien n'est pas de part et d'autre de la frontière coloniale en Algérie en présence d'univers dissemblables ou en confrontation. Enfin, pas forcément. La présence de sources en langue arabe en France, notamment à la BNF, plein de sources en langue arabe, ou inversement des sources en langue française dans des fonds qui a pris dans lesquels on ne s'y attend pas, est un premier indice de cette perméabilité. Également, les discours ne sont pas hermétiques les uns aux autres. On a des documents de langue arabe qui sont écrits par des notables algériens, des lettrés, mais à la demande d'administrateurs. Vous voyez, première complexification. Les sources coloniales contiennent beaucoup de sources en arabe produites par des Algériens arabophones. Et la suite, je suis obligé de me remémorer ce que j'avais raconté, mais on a globalement des univers qui ne sont pas du tout étanches. L'exemple que je donnais de ce terme de réforme qui est en fait abondamment utilisé en raison de sa polysémie en fonction des contextes de réception, est un exemple de cet univers profondément imbriqué. Alors, je suis obligé de, du coup, de sortir du PowerPoint pour retrouver la fin de mon topo, pardon. Je suis un peu honteux, mais sinon, ça sera trop long. Alors, vous allez en plus... ah non, ça n'apparaît pas. Sinon, vous allez voir mes notes. Alors, quels apports ? Ce qui permet d'évoquer aussi les enjeux. Alors, tout d'abord, à l'échelle locale, je mets en évidence les processus de construction de la communauté ibadite d'Umza, mais aussi de son insertion politique, économique dans l'Algérie. La période coloniale est un temps crucial de recomposition démographique, sociale, politique, et en fait, les années 1940 sont vraiment un tournant à partir duquel la communauté se recentre, se reconstruit autour de ces nouvelles élites religieuses, les réformistes, et économiques, donc ces commerçants, ces nouveaux riches de la colonisation. Deuxièmement, à travers le cas de Nusab, je propose une relecture du réformisme. Bon, évidemment, il s'agit d'abord de mettre en évidence l'existence d'un réformisme ibadite, on ne peut pas s'en tenir à là. Les conclusions de la thèse dépassent un peu cette ambition. D'une part, le cas d'Umza permet de réfléchir aux stupéfiantes similitudes que le réformisme musulman offre, quelles que soient les régions concernées. Le local éclaire un phénomène transnational. Les réformistes d'Umza sont en de très nombreux points comparables à ceux d'autres régions. Le passage des oulémas vers la profession de publiciste, de journaliste, l'emploi nouveau des outils jurisprudentiels islamiques pour entériner l'adoption de nouveautés européennes, la critique virulente des cultes rendus au saint personnage, ou aussi des pratiques pieuses sur les tombes, et d'autres points pourraient être cités. Et pourtant, alors même qu'ils utilisent quelque chose de transnational, un phénomène qu'on observe un peu partout, les réformistes tracent des contours à leur communauté et produisent des particularismes locaux. On n'a pas l'oubli d'un localisme, au contraire. Le réformisme ibadite met en évidence, du coup, la tension entre l'écho transnational du discours de la réforme, ses prétentions universalistes, et la réalité des multiples appropriations, des déclinaisons locales dont il fait l'objet, dans des contextes variés, et je crois que c'est cette adaptabilité qui est la condition même de son succès. Deuxième apport à l'histoire de la réforme, le réformisme, en fait, cette notion, constitue un point de jonction dans l'espace public colonial entre voies algériennes et européennes. Donc ça permet de nuancer son appréciation comme un phénomène islamique, une réaction endogène à l'impérialisme occidental. Au contraire, je l'ai un peu ressassé, là, je passe vite, mais c'est dans les interactions, entre l'émergence. Enfin, les sources montrent vraiment une interaction entre l'émergence du slogan islamique musulman de la réforme et le label européen réformiste. Enfin, ma thèse apporte une contribution triple à l'histoire de l'Algérie et à la période coloniale. Premièrement, je prête une attention inédite aux ressources culturelles et sociales des populations colonisées et à l'usage qu'elles en font. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre en compte véritablement, dans le temps long, les historicités locales, les institutions locales et leur devenir, ce qui permet de montrer que tout n'est pas colonial dans le Maghreb, à la période coloniale. Les gens du Mzab interprètent le présent en fonction d'historicité héritée. Évidemment, alors j'insiste sur ce qui demeure en situation coloniale de façon assez lourde. Ce n'est pas pour faire ressortir un substrat algérien, ce n'est pas pour culturaliser des populations, mais c'est pour comprendre, c'est au contraire pour socialiser ce substrat et comprendre les ressources propres dont disposaient des Algériens, les Mozabites, et qu'ils ont constamment réinterprétées. Deuxième apport au champ de l'histoire coloniale, enfin de l'Algérie à l'époque coloniale, en interrogeant aux échelles locales, régionales et transnationales, l'action et la pensée d'un groupe de religieux, je sors des cadres algériens et franco-algériens dans lesquels la majorité de la société coloniale algérienne est pensée. Et, troisième apport, J'éclaire les réactions des élites religieuses, c'est quand même une histoire par les élites, j'éclaire les réactions des élites religieuses à la présence française, ici le plus souvent l'accommodation, enfin désaccommodation. Ce qui apparaît en fait, c'est une vie politique, voilà, dans ce sud algérien, une vie politique peu marquée par les formes partisanes, formes partisanes qui sont traquées vraiment dans l'historiographie sur le nord, et qui sont importantes là-bas, mais dans le sud pas tellement, et une vie politique peu marquée aussi par l'idée de nation, mais davantage par des impératifs communautaires, locaux ou communautaires au sens religieux. Cela permet de penser la politique non pas uniquement comme une diffusion des structures partisanes ou institutionnelles européennes, et au contraire, cela permet donc de s'intéresser davantage au devenir des institutions et des formes d'expression politique vernaculaire. Pour conclure, du coup, ça peut aussi ouvrir la discussion, mais j'ai déjà beaucoup parlé, pardon. Trois dernières photos, c'était sur cette question du... J'en ai peu parlé, cette question de l'aspect... des échelles dans mon travail, mais j'ai essayé, à partir de ce cas a priori très local du Mzab, je me suis retrouvé avec des oulémas qui circulent, des supports, des médias qui circulent, et en fait je me suis retrouvé à voir que le Mzab n'est pas du tout un trou, mais non seulement un carrefour des circulations sahariennes, mais aussi un espace connecté au reste du monde arabo-musulman, de la Méditerranée, et évidemment aussi il y a des connexions avec l'Europe. Alors là, on a un exemple, c'est le départ du car vers Niamey autour de 1946. Alors un car qui est affrété par la Société algérienne des transports tropicaux, que Annick m'a aidé à identifier. Alors, c'est une société là qui est fondée par les Français, mais a une base au Mzab pour des circulations transsahariennes. Autre exemple, on trouve des ibadites, en fait j'aurais dû commencer par là, pardon. Les ibadites sont même pas 1% des musulmans dans le monde, mais ils sont présents donc dans le Mzab, sud algérien, dans l'île de Djerba, et dans l'ouest libyen, au sud-ouest de Tripoli, et enfin dans le sultanat d'Oman, où ils sont majoritaires, et à Zanzibar. Alors Zanzibar parce que c'était une colonie de Oman. Et donc là on a un exemple assez caractéristique des circulations auxquelles ça donne lieu. C'est, on a en 1964, je crois, c'est mangé à gauche, pardon, à Guerrara, donc une des villes du Mzab, trois shir ibadites qui se rencontrent. Donc de droite à gauche, c'est le shir Bayoud, vous l'avez vu jeune, là, vous le voyez un peu moins jeune, qui lui est le grand notable religieux et plus de Guerrara. Juste à sa gauche, c'est un shir qui s'appelle Sulayman Ben Himir, qui est ministre de la défense de l'imam Ghalib d'Oman, en fait, qui est imam de l'Izwa, dans un moment de conflit en fait, interne à Oman. Et enfin, complètement à gauche, le shir Abu Ishaq, qui est un ibadite, qui est parti, un ibadite du Mzab algérien, qui est parti à la fin des années 1910 en Tunisie, et qui ensuite a été expulsé de Tunisie par les Français, et qui s'est installé au Caire. Et c'est lui qui publie beaucoup, qui dirige un journal au Caire et qui mène, qui fait vraiment sa vie. Et vous le voyez à leur costume, on a le shir Abu Ishaq est habillé comme un shir égyptien. Au milieu, on a un costume vraiment du golf. Et à droite, l'habit des chefs religieux du Mzab. Et dernier exemple, dernière photo, après je vous laisse la parole. Un autre exemple, plus ancien, on est en 1914, avril 1914. 40 jours après la mort du grand shir Tfayesh, qui était le pôle, en fait, le qatab, le pôle des shirs ibadites du Maghreb à la fin du 19e siècle. Et on a autour de sa tombe une réunion, donc, en fait, à l'occasion de la visite de Sulayman al-Barouni. Sulayman al-Barouni, c'est un notable ibadite de Tripolitaine, donc de Libye, qui a étudié en Libye. Il a étudié aussi à Tunis, à Zaytouna, et il est venu compléter ses études auprès de Cheikh Tfayesh. Donc il a vécu au Mzab à la fin du 19e siècle. Ensuite, il est devenu sénateur ottoman. Il a été un des leaders de la résistance contre la conquête italienne en 1913. Et là, on le voit en 1914, entre-temps, il avait aussi été éditeur au Caire, et on le voit en 1914 qui vient donc rendre hommage à son maître, qui est entouré de notables locaux, et également, voilà, je vous parlais d'accommodation, bon, c'est un peu rapide de le dire juste à partir d'une photo, mais on voit ici le chef militaire qui commande l'annexe de Guindaille. J'espère ne pas vous avoir trop noyé, je vous remercie.